Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 27 octobre 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Ça vit dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV.
Eh non, pas TV. Suivi de...
le supplément week-end. L'équipe du supplément week-end, enfin, Xavier et Thomas sont heureux de transmettre... Pas encore. Donc pas de du sport, voilà. Et à 15h, Zarma Farissé du reggae, 17h, Big Bang, 18h, Vidor Dursu Punk, 19h, Happy Rural, c'est des petites olives qui piquent, 20h, la CTO Experience, et 21h39, Love. Oui. Et oui, pas de du sport.
Et non. Bonjour Xavier.
Bonjour Thomas, tu vas bien ?
Oui, j'ai changé de place et j'ai la lumière dans la gueule maintenant.
Ah pardon, désolé, attends, non, on va arranger ça, tu vois, en direct, parce que on peut le faire, voilà, zou.
Oh,
c'est pas du Varilight, mais c'est beaucoup mieux, oui,
ah,
je pense bien.
Oui.
Voilà, donc
Merci.
Pas du sport aujourd'hui, là, mais il est en train de se préparer, de s'entraîner. D'ailleurs, ce serait bien si quelqu'un pouvait couper tous les radars routiers sur l'agglomération de Toulouse, parce que je sens que quand il va devoir aller tout à l'heure... à la clinique, il va aller très vite. Nene Cherry, c'est un remix de Man Child.
Help turn in 16.
Et le Hot School Mix de ce grand classique des Nashiris, c'était sur son premier album solo. Ouh, ça remonte un peu, mais voilà, donc du sport ne fera pas émission aujourd'hui puisqu'il en attend d'un heureux événement. Et aux dernières nouvelles, donc on est toujours en attente, voilà, donc pas du sport tout à l'heure à 13h. Donc la suite du supplément week-end sera à partir de 15h avec Zahar Mafari et avec Poupa Christopher. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Ma foi, qu'est-ce qu'il y a qui est arrivé un peu dans nos mains? Il y a le nouveau Satyricon qui est sorti sur le numéro 47, si je me trompe, donc d'octobre, avec les derniers développements concernant Airbus Industries, avec donc la présomption de délit d'initié. Il y a aussi, bien évidemment, des infos concernant notre nouveau casino, tout beau, tout neuf et tout le reste, et ainsi que des histoires pas très fines autour de Jean-Michel Baillet, le président du Parti Radical de Gauche et aussi patron de l'unique presse de quotidienne régionale, La Dépêche du Midi. Et aussi, Marie de la patronne de Imacom qui aurait reçu donc sans appel d'offres la communication exclusive du Conseil Général de Tarn-et-Garonne, dont le président est Jean-Michel Baillet. Ça y est, la boucle est tournée, voilà. C'était pas très fin. Heureusement, il reste des journaux satiriques d'information locale qui s'en sortent comme ils peuvent. Mais en tout cas, ils ont au moins le mérite de faire de très bonnes enquêtes et avec des dessins d'un peu tout le monde. Même s'il n'y a plus l'équipe de base, il y a quand même des dessinateurs talentueux dedans. Je vais y arriver. Je pense déjà avoir des petits problèmes de mâchoire, voilà. Je vais essayer de débloquer ça. Lire le journal qui a été monté par Bernard Pivot, je le rappelle, sort un hors-série, le numéro 6, La vie secrète de Goscinny. Il faut savoir donc que l'on 5 novembre prochain, 30 ans jour pour jour, ce sera la mort de Goscinny dans l'une des crises d'humour noir les plus cyniques jamais faites en bande dessinée, puisque ce scénariste est mort lors d'un test d'effort d'une crise cardiaque à côté de son cardiologue. Donc c'est ainsi qu'est parti le génial créateur d'Astérix, d'Oum Papa le Pot Rouge, du petit Nicolas, dont dans le numéro de hier, et ben dedans il y aurait une histoire inédite du petit Nicolas. Elles n'ont pas toutes été recueillies en album ou en poche. Et celui qui a créé aussi Is No Good,
Lucky Luke.
Non, Lucky Luke c'est pas lui, c'est Maurice tout seul, mais c'est lui qui a repris les personnages des Dalton, puisqu'en fait il y avait des frères Dalton à la première
qui mouraient
hors la loi. Bob, Gratt, Bill et Emmett. Bob le plus petit était déjà le chef de la bande. Emmett n'était pas l'espèce d'allumé de la soupière qui était à Riverdale. Et c'est lors d'une rencontre donc avec Goscinny qu'ils se sont dit oh c'est dommage, il faut le recréer. Donc c'était une invention formidable, on va en faire les cousins des frères Dalton, voilà. Et c'est là où, après, c'est devenu des personnages intemporels, plus bêtes que méchants, bien sûr. Ça, on en parlera la semaine prochaine dans une spéciale. Sans Thomas, cette fois-ci.
Eh oui.
Alors, dis-moi, Thomas, qu'est-ce que tu...
Qu'est-ce que je... Alors, meublé. Eh bien non, de la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc, on reportera également la spéciale Halloween autour du film la semaine d'après.
D'accord.
On essaiera... Voilà, donc... Et aujourd'hui, on va parler plutôt de pingouins.
De pingouins qui surfent, c'est ça?
Oui, voilà.
Bon, alors, il faut que je t'explique. Donc, Firefox, contrairement à ce
non.
que l'on... Non, ça existe effectivement sous l'OS du pingouin, mais ce n'est pas exclusivement le système de l'OS au pingouin. Contrairement à Conqueror, qui est exclusivement sous l'OS à pingouin, et qui est ensuite retrouvé dans l'OS à la pomme, sous le nom de Safari.
Super Weekend, le rendez-vous des cultures geeks.
Merci. On va commencer sortie bande dessinée avec un album assez lourd, assez long, assez imposant, mais il valait la peine d'être attentivement lu au détriment des autres chroniques que j'aurais dû faire en catastrophe, apprenant donc que du sport n'était pas là. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est un très très bon bouquin, un témoignage relativement rare sur un des pays les plus dangereux. Et la meilleure preuve que c'est dangereux, c'est quand Sylvester Stallone a l'idée de faire un nouveau Rambo, il appelle la revue Soldier of Fortune, vous savez, la revue de ceux qui se prennent pour des mercenaires, et il leur dit « C'est où l'endroit le plus dangereux sur Terre actuellement ?» Bon, personnellement, je vous déconseillerais absolument l'Irak. « Ouais, mais il faut une jungle. » Bon, la Birmanie, alors. Guy Delisle vient donc de sortir dans la collection Shampoing Collection, qui est dirigée, le détail à son importance, par Lewis Trondheim, aux éditions Delcourt, Chronique Birmane. Oh, il y a de drôles de coïncidences quand même, celles qui font qu'on parle d'un pays qui est très fermé sur lui-même et qu'au même moment, une BD, justement, parle... comment on vit dans ce pays quand on est membre d'une ONG occidentale. Donc je rappelle que le 23 septembre dernier, les bonzes et les moines bouddhistes sont descendus dans la rue pour protester parce que la population ne peut pas le faire elle-même sans immédiatement se faire flinguer, pour protester contre la cherté de la vie et l'augmentation à la fois du prix de pétrole et des matières premières. Savoir aussi que la Birmanie, eux, ils y croient aux éco-carburants, vous savez, là, les fameux carburants verts à base de... Donc, ils ont rasé une partie des rizières pour cultiver des graines qui ne servent justement qu'à faire ces fameux biocarburants. C'est comme ça, voilà, il faut savoir, donc les biocarburants résolvent pas tout, au contraire, ils créent de la faim dans le monde. Ça, c'est important de le noter. Bon, on va commencer par un point de détail, mais celui-ci a son importance. Depuis 1989, le nom du pays officiel est le Myanmar. Du moins, ce nom est reconnu par l'ONU, et c'est celui qui est utilisé par ceux qui reconnaissent le régime militaire actuellement en place. Par exemple, la Chine. D'autres pays, notamment les États-Unis et la France, parlent officiellement de la Birmanie car ils ne considèrent pas la dictature en place comme légitime. En 1990, furent organisées les premières élections libres et multipartites afin de faire une rupture avec le dictateur Ne Win, qui est parti un petit peu à la retraite. Ces élections furent remportées à plus de 80% par la Ligue nationale de la démocratie, un parti mené par Aung San Suu Kyi, la fille de l'artisan de la Birmanie indépendante, le général Sun Tzu, mais celle-ci ne put jamais exercer son pouvoir, fut assignée à résidence à la junte et n'a jamais quitté sa maison depuis tout ce temps-là. Même quand elle reçut le prix Nobel de la paix en 1991, elle n'a pas pu aller à Stockholm. Alors si vous êtes de passage, inutile de tenter de passer devant le 54 University Avenue. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas y aller. Néanmoins, à pied, ces derniers temps, ça s'est un petit peu détendu. On peut y aller en voiture. Enfin, ça dépend de la météo politique locale, comme on dit. Précédemment, Guy Delisle travaillait comme superviseur de studio d'animation. Une expérience personnelle qu'il avait racontée dans Shenzhen, aux éditions de l'association. Sur un ton humoristique, il remit ça plus tard avec Pyongyang, toujours à l'association, ou toujours en tant que superviseur d'animation pour une série française, notamment pour Papyrus. Il travaillait avec un studio nord-coréen dans des conditions absolument ubuesques. Cet ouvrage a fait date parce que justement, c'est un témoignage précieux sur la dictature communiste la plus fermée au monde.
Non, il y a la Corée du Nord aussi.
Je parlais de Pyongyang.
Ah, bien.
Blab. La femme de Guy Delisle est administratrice pour Médecins Sans Frontières. C'est en qualité d'époux au foyer que donc il l'accompagne dans l'un des pays les plus dangereux au monde pour élever leur enfant et après tout pourquoi pas aussi faire son métier, dessinateur de bande dessinée. On apprend relativement tard dans l'histoire les difficiles conditions de travail pour les ONG face à un gouvernement qui fait tout pour les bloquer administrativement. C'est-à-dire du style, vous avez un hôpital à tel endroit, c'est une région qu'on considère comme sensible, et ben, vous n'avez le droit d'y résider qu'une semaine, et au bout d'une semaine, il vous faut redemander un visa intérieur. Oh, ça demande que 3 mois pour l'obtenir, 3 semaines pour l'obtenir. Vous imaginez les conditions quand même de gestion pour les hôpitaux. Mais aussi la violence de la lutte de pouvoir au sein même du gouvernement. N'importe quel ministre peut se faire fusiller pour complot supposé ou mauvais horoscope avéré. Les Occidentaux ont leur club privé, vivent dans des quartiers suffisamment privilégiés pour profiter un peu plus longtemps du courant que les autres quartiers de la ville. Alors j'ai déjà expérimenté personnellement le fait que les administrations françaises à l'étranger sont vraiment coupées de pays où elles sont, c'est-à-dire elles sont complètement à l'ouest bien souvent, faut pas trop leur demander des fois des services. N'ayant pas de travail ni de réelle nécessité, l'auteur lui-même ne fait pas vraiment d'efforts pour apprendre la langue des habitants de ce pays ou des éléments de culture locale. Ce qui des fois donne des gaffes qui ne porteraient pas vraiment à conséquence si le pays n'était pas une des dictatures les plus violentes actuellement en exercice. Ainsi, la criminalité est plutôt rare en Birmanie, justement à cause de la présence policière. Mais il y a très régulièrement des attentats meurtriers dans la capitale, Rangoon, résultat des combats avec les ethnies minorées par le régime. Un régime policier, brutal, dictatorial, parfois à l'absurde, puisque Guy Delisle nous raconte l'ubuesque déménagement de la capitale en 2005. Tous les ministères et services administratifs importants déménageaient du jour au lendemain de Rangoon à Nan Pina. Tous les fonctionnaires ont été priés de prendre leurs affaires et d'aller vivre dès le lendemain à plusieurs centaines de kilomètres dans une ville sans eau ni électricité. Là où l'on passe du pathétique au drôle, c'est que les États-Unis étaient en train de construire une nouvelle ambassade très grande dans l'ancienne capitale. Note, elle a sûrement dû coûter moins cher que l'ambassade littéralement gigantesque de Bagdad. Ce qui rapproche aussi des événements de septembre dernier, c'est la place que laisse entrevoir l'auteur qu'a la religion dans la vie quotidienne, l'importance des bonzes, des moines dans la vie des habitants, mais aussi que s'il n'était pas le père d'un charmant bambin, il aurait eu bien du mal à s'approcher des habitants. Des Birmans qui vivent de façon résignée à la dictature de leur pays, et dont les anciens ne manquent pas de s'excuser auprès de l'auteur pour l'état dans lequel est leur contrée. Des témoignages rares et touchants. Guy Delisle, Chronique Birmane, c'est dans la collection Shampoing chez Delcourt. Et donc le point important, donc, c'est que les deux premiers tomes, Shenzhen et Pyongyang, étaient sortis chez l'association. Et donc ce troisième tome de cette autobiographie à l'étranger de l'auteur paraissent non plus dans l'association, mais Shampoing, une collection qui est dirigée par Lewis Trondheim. Comme quoi, il y a vraiment une fuite des auteurs actuellement auprès de l'asso. Voilà. Je vous le recommande très chaudement d'ailleurs, c'est Chronique Birmane.
We'll be right back.
écoutez Radio FMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end et donc en l'absence du sport aujourd'hui, il n'y aura pas de chronique télévision, mais on va se faire à la place pas mal de breaks musicaux. Nova Nova Played, c'est un mix d'Aqua Bassino qui date un peu mais qui est toujours aussi calme et doux. Voilà.
Yeah.
Le supplément week-end sur Radio FMR en direct et en différé aussi sur le net. Il suffit de chercher le site web, c'est supplément week-end. Vous tapez supplément week-end sans accent ni tiré .tk dans votre navigateur web, c'est l'adresse. Et vous allez tomber dessus. On est écouté un peu partout dans le monde. Il y en a qui nous écoutent au Brésil, d'autres au Japon. Il y a même un club d'utilisateurs de DS en Algérie qui nous écoute. Ça vous fait plaisir. Donc, salam alaikum à eux. Et puis, voilà, parce que... leurs commentaires nous encouragent. Il y en a d'autres qui ne font que nous que m'écrire directement sur le mail. C'est dommage qu'ils n'interviennent pas, mais bon. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. On va continuer dans les sorties bande dessinée avec Voyageurs, le tome 2 donc de cette saga qui s'appelle Futur. Enfin, c'est la deuxième partie de la section Futur. C'est un scénario de Pierre Boisserie, un dessin d'Eric Stalner. On voit en général plutôt dans la bande dessinée historique ou en costume, dans la collection Graphica chez Glénat. Makeïssa, échappée de la fondation Markovic, qui possède Grand Paris, mais qui ne maîtrise pas franchement les quartiers populaires de Rive Gauche, découvre leur pouvoir de téléportation. Mais suite à une escapade, Fish se fait une blessure au fond qui ressemble à la cicatrice de Vader. Serait-ce pour ça que ce héros intemporel s'intéresse tant que ça au destin de ces jeunes gamins ? Le premier tome de cette saga dévoile immédiatement vers quoi elle tend, le paradoxe temporel d'une boucle. L'annoncé d'entrée est un pari osé car en général c'est un élément de révélation suffisamment fort pour servir de conclusion. On se souvient bien évidemment de la planète des maîtres du temps, pardon, le dessin animé auquel a participé Moebius et d'autres histoires du même acabit. Boisserie, lui, casse volontairement ce cliché. Dans ce deuxième tome, on en apprend un peu plus sur ce futur assez noir où les États ruinés par leurs dettes ont dû revendre des villes entières à des corporations, lesquelles vendent la nourriture à prix d'or sur une planète Terre totalement pillée. La course à l'énergie mènera bientôt tout ce petit monde à sa perte. Et on aura bien 13 tomes dans une sortie très rapprochée, puisqu'il est question de terminer la publication de cette série d'ici 2011. Le premier tome était sorti en avril dernier, celui-ci vient d'arriver, donc c'est à peu près tous les 6 mois. Pari très osé car le même duo sort en même temps une excellente série en costume, Flore de Luna, dont l'action aussi se déroule sur plusieurs époques, mais où là il n'est pas question de paradoxe temporel, mais plutôt de la grande dynastie des cigares. Les 4 tomes de la partie présent seront illustrés par Marc Bourgne et le passé par Lucien Rollin, Éric Lambert, Éric Limberge et Siro. Et Eric Stalner fait donc la partie future, les 4 tomes. Néanmoins, si vous êtes patient, sachez qu'une édition noir et blanc à tirage limité est prévue de la saga Voyageur. Future, deuxième partie, Pierre Boisserie au scénario, Eric Stalner au dessin, c'est dans la collection Graphica chez Glénat. Il y a un régipub qui se fout de ma gueule, qui me dit qu'il est midi et 30 minutes et que cette fois-ci je m'en sortirai pas. Il y a une publicité, et pour faire plaisir à du sport et à ses charmants bambins qu'il a déjà, et ben c'est une publicité pour des jouets. Donc vive Mattel.
Mattel âge mongol présente Babette, la poupée qui te prend la tête.
Waouh, c'est génial!
Elle dit un tas de cochonneries qu'elle a puisées dans les quartiers les plus craignos de la banlieue parisienne.
Babette, dis-moi quelque chose.
Vas-y, gratouille-lui son ventrou et elle te dira...
Oh oui, tu m'excites, un peu plus bas encore.
Tu peux même lui donner à bouffer.
Quelle truiste, Babette!
Ouais, et en plus elle est dotée d'un système de digestion révolutionnaire.
Oh, elle cague! Singer.
Oui, elle sait tout faire.
Tu veux bien nous aider le clitoris?
C'est quoi un clitoris?
C'est une parmi les moult vulgarités que t'apprendra Babette, la poupée qui te prend la tête, par Mattel.
Je me taperai bien une bonne petite queue, là.
Pour m'excuser, j'offrirai la collection complète de Martine... Martine aux éditions Casterman.
C'était une pub des requins marteaux.
Je sais plus où c'est que je l'ai sorti celle-là. Elle est un peu vieille. Seven Swords Prélude, c'est un album collectif autour du film de Deng Xiaoping, non, de Wong Kar-wai, non, de Hona Hai, non.
Shayark. Ah. Essaye de le prononcer à la mandarin alors. Chouke.
Chouke. Voilà, ouais. Je vais y arriver. 1, 2, 3, Chouke. Obligé. J'arrive mieux quand on me le répète.
D'accord.
Milieu du 17e siècle, la Chine est en pleine crise, la dynastie Ming vit ses dernières heures au sein de la cité interdite. Les généraux prennent le parti de l'empereur Mandchou qui fonde de l'envahisseur Mandchou qui fonde leur empire. La nouvelle dynastie Qing, donc qui sera une dynastie Mandchou qui régnera sur l'empire du milieu pendant plus de 3 siècles, assoira son pouvoir par la terreur, imposant aux Chinois le port de la natte et interdisant les arts martiaux. Mais néanmoins, de nombreux villages refusent ce nouveau pouvoir. Le seul moyen de sauver les habitants serait de prendre les armes, mais pas n'importe quelles armes. 7 épées d'exception. Rares sont les cinéphiles qui savent que Tzu Hark est un fan de bande dessinée. Il est lui-même dessinateur, mais il est bien mieux connu comme un réalisateur doué qui a multiplié les genres. Le syndicat du crime, un polar mafieux. Zhou, les guerriers de la montagne magique avec le fantastique. Il était une fois en Chine. Le festin chinois avec un polar culinaire. Le film d'arts martiaux culinaires, voilà. Et piège à Hong Kong dans l'art de la destruction d'acteurs philosophes d'exception. Et je ne parle pas de BHL.
Alors le syndicat du crime, il a seulement produit. Hein. Il a réalisé le 3 surtout. C'est John Woo qui a réalisé le 2 premier.
D'accord, je me suis planté.
Non, mais c'est pas grave.
Pour sa dernière super production, Seven Swords, qui est arrivé en France en 2005, référence évidente aux 7 samouraïs de Kurosawa, il a invité des dessinateurs chinois, mais aussi une japonaise, à illustrer des histoires courtes, chacun représentant avant les événements du film l'histoire du porteur de l'arme. On y retrouve des auteurs déjà publiés en France comme Jian He, Lu Ming, Nian Kai et Song Yang, tous d'ailleurs chez Tiaopan. Graphiquement, c'est quand même un petit peu inégal, voire même assez inégal. L'affiche réalisée par Benjamin et certaines histoires à l'intérieur comme celle de l'épée Rédemption contrastent franchement, hein, mais on s'en fiche. On y retrouve l'esprit épique de l'histoire et même quelques pages de croquis préparatoires du réalisateur. Et là, on se prend une claque quand on voit la maîtrise graphique, quand même, de Swark. Un complément idéal pour ceux qui ont déjà acheté le DVD Collector et la bande-son de Kenji Kawai.
Ah putain, ouais, c'est le dessin de Swark, ça ?
Ouais.
Ah merde.
Donc Thomas était censé prendre la suite parce que moi j'ai pas vu le film, voilà, honte à moi, et là du coup il est désarçonné.
Ah non, mais c'est ouais, d'accord, je savais qu'il dessinait, mais c'est Benjamin qui me l'avait dit d'ailleurs, mais ouais, c'est assez surprenant.
Ouais.
Ouais, donc on peut
Benjamin, c'est celui qui a fait la couverture, hein, et qu'on avait reçu sur FMR pour Orange.
Voilà, alors c'est bien de resituer en fait Seven Swords dans la filmo de Soyark, puisque Soyark il avait réalisé en 96 The Blade, qui était une revisitation du genre du Wu Chapan, c'est-à-dire le film d'épée chinois, et il avait justement, juste après ce film, qui avait fait un bide monstrueux, c'est-à-dire la même année d'ailleurs qu'il avait réalisé le festin chinois dont tu as parlé tout à l'heure, et bien en 97 il est allé s'exiler aux États-Unis pour faire un film avec le philosophe, et il a pondu une merde. merde. Donc c'est double team. Une merde infâme avec Mickey Rourke se battant contre un tigre dans le Colisée de Rome à la fin, qui est complètement n'importe quoi. Et après,
avec des mines.
Avec des mines. Et il a dit au philosophe, bon ben, ce serait bien que tu viennes faire un film chez moi, parce que bon, chez moi c'est mieux.
Je rappelle qu'on parle de Jean-Claude Van Damme, voilà. Pas de BHL.
Voilà. Et donc il tourne ensuite Piège à Hong Kong. Donc c'est quand même un sympathique petit film qui dynamite tout ce qui a fait, ben, tout ce qui fait le que Jean-Claude Van Damme est quand même une star bankable, enfin dans un certain genre quand même. Donc le film c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est du bon n'importe quoi. C'est très jouissif, c'est un nanar, mais très rigolo. Et juste après, donc il fait un Time and Tide. C'est un film excellent à Hong Kong. Et puis on sait pas trop ce qui se passe après. Il fait deux merdes coup sur coup. Black Mask 2, qui est, je crois que c'est le pire navet dans ma DVD Tech. Je savais même pas quand je l'ai acheté. Voilà, c'est, je crois que c'est le. Je suis très fier d'avoir ce film tellement il est mauvais.
C'est pire que Matrix 3.
Ah non, Matrix 3 c'est vachement bien. Moi j'aime bien Matrix 3. Non, Black Mask 2 c'est une merde, mais dans une échelle de merde, c'est quand même une échelle super top dans la merde quand même ce film. Et il a fait aussi Legend of Zoo. Donc c'est la suite de Zoo les guerriers de la montagne magique qui a adulé parce que c'était
Il l'a fait 20 ans après en plus.
Il l'a fait 20 ans après la légende de Zoo, c'est moi je suis pas très fan du premier, alors il paraît que la 2 j'ai pas vu mais c'est vraiment très mauvais. Il a vu en voyant Storm Riders, donc le film réalisé par Andrew Lau qui a fait par la suite Infernal Affairs, et donc il s'est dit tiens, ce serait bien un film d'arts martiaux avec des effets spéciaux dedans. Donc il se pervertit dans Legend of Zoo et donc il se dit bon allez, on va arrêter les conneries. Ce serait bien de revenir aux sources du Wu Chapan avec des chorégraphies utilisant très peu les câbles et avec beaucoup de poussière dedans et du désert, etc. Donc on va revenir au film un peu plus brutal. Et donc il essaie de renouveler la tentative de The Blade avec Seven Swords qui se passe dans une époque, comme tu l'as dit, un peu barbare, mais quand même avec très peu de prise sur la réalité. C'est quand même une époque un peu fantasmée. Enfin le film, le théâtre des aventures du film est assez fantasmé. Et donc c'est l'occasion de lui de repartir sur de nouveaux codes. Alors bon, le film a été assez mitigé, il est sorti chez nous dans une version charcutée puisque c'est la version courte, et il faut savoir que ça inspirait
alors pourtant il a été présenté à la Mostra de Venise,
oui.
Il a fait l'ouverture d'ailleurs il me semble,
ouais, je sais plus, mais en tout cas la version qui est sortie chez nous est une version courte quand même de plus de 2h30 je crois, il me semble, et puis voilà. Donc en plus c'est inspiré d'une série de bouquins assez connus en Chine. Et donc bon, le film c'est quand même une tuerie vraiment assez exceptionnelle, puisque bon, on retrouve les méchants un peu à la The Blade, c'est-à-dire surmaquillés, complètement improbables, avec des moments où tu te dis oula, Sayar qui est de retour aux manettes avec beaucoup d'innovation et d'expérimentation chez Rob Bonhomme. Et Seven Swords c'est quand même du bon Sayar, hein. Alors bon, t'as cité quand même quelques films assez connus du gars. Il faut aussi citer Green Snake qui était une variation autour de la légende chinoise Serpent Vert et Serpent Blanc qui était super beau. Il a fait pas mal de films romantiques aussi. Il a fait L'Enfer des Armes qui a été un film de 79 qu'il a propulsé vraiment et qui a lancé le Silver Age du film HK, puisque le Golden Age c'était plutôt la Shaw Brothers.
Oui, c'est les années 60-70.
Voilà. Et donc Soyark, si tu veux, s'il n'avait pas été à Hong Kong, l'industrie cinématographique serait vraiment cassée la gueule. Et c'est lui qui a lancé John Woo, qui a lancé pas mal de réalisateurs comme John Ito, qui les a fait débuter avec la Film Workshop. Et c'est quelqu'un quand même qui a toujours 100 idées à la minute, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup compté et qui continue un peu à faire des films. Alors je sais pas s'il y a un film de lui qui est sorti chez nous depuis Seven Swords, il me semble pas. Je sais même pas ce qu'il
a fait
depuis.
Je n'en avais pas trouvé sur Allociné.
D'accord.
Enfin, du moins de films sortis en France. Et après, c'est vrai que production chinoise, je ne suis pas au courant.
Alors, tu as oublié de dire aussi qu'il s'est essayé au film d'animation, puisque c'est lui qui a lancé la trilogie Histoire de fantômes chinois. Alors, l'excellent bouquin Ciné Hong Kong de Laurent LB, justement, retracé l'épopée de la Film Workshop, et il disait, si vous voulez faire une blague à l'équipe de tournage du film des films Histoire de fantômes chinois, vous soutenez que c'est Shin Tsutung qui a réalisé la trilogie. Vous allez voir, ils vont super se marrer parce qu'en fait c'était Tsoyar qui est derrière aux manettes et qui recharcutait tout, qui retournait des scènes et qui était au montage. Et en fait Shin Tsutung, c'est juste le pauvre fantoche qui était là pour dire ouais, c'est moi qui réalise officiellement.
Ouais, c'est la même chose avec les productions Luc Besson quoi.
Ouais, sauf qu'il y en a un qui a un peu plus de talent que l'autre.
Voilà. Pas de polémique, pas de polémique.
Pas de polémique.
Ok, merci. Donc, Seven Swords, le prélude donc est sorti en œuvre collective chez Tiaopan. C'est un gros bouquin, c'est-à-dire que c'est vraiment le format un peu, je vais dire, Delcourt, avec plus de 64 pages. Donc, on en a un peu pour son argent si justement on est fan de ces œuvres-là. Graphiquement. Ne vous attendez pas forcément au chef-d'œuvre, mais il y a quand même de très très belles choses qui sont à découvrir. Il y a notamment l'auteur, pas de My Way, je me plante à chaque fois, mais
de Wild Animals.
Wild Animals, qui est étonnant justement quand il travaille pas uniquement en noir et blanc, mais avec les textures, c'est très très beau. Ça donne envie, enfin pour moi, de voir le film et à Thomas de me piquer sauvagement le bouquin.
Donc, il faut savoir, je sais pas si tu l'as précisé, mais ce n'est pas une BD à adapter du film. Hein. C'est,
non, ça se passe avant.
D'accord.
Ça se passe avant, je l'ai bien précisé.
C'est pour ça donc que ça s'appelle Prélude.
Midi 42 sur la poubelle des radios. Massive Attack Protection. On ressort les lieux classiques, que voulez-vous ?
Some shit to just running around and hell.
La chronique cinéma d'animation en 3D vous est présentée en Ray Trace et en Dolby Mono Surround par Thomas. Bonjour.
Rebonjour. Et oui, nous allons parler de pingouins qui font du surf aujourd'hui avec Les Rois de la Glisse. C'est un film d'animation donc en 3D produit par Sony Pictures Animation et co-réalisé par Ash Brannon. C'est déjà le co-réalisateur de Toy Story 2, donc c'est quand même un gars qui avait fait ses preuves, et Chris Buck qui avait déjà travaillé pour Disney. Alors, c'est l'histoire de Cody Maverick, un petit pingouin, enfin un jeune pingouin, ado, habitant la banquise, et qui est passionné de surf, et surtout depuis que le grand Big Z, qui est aujourd'hui disparu au cours d'une compétition contre son redoutable rival Tank, était venu lui rendre visite et lui offrir le collier de Big Z. Sélectionné pour participer au championnat du monde sur l'île de Pingu, Cody sympathise avec Chicken Joe, un coq qui fait du surf, et la sauveteuse Rasta. Voilà. Et la sauveteuse Lani et le sympathique Geek. Non, ce n'est pas Xavier, il s'appelle Geek en fait. Donc ce qu'on peut retenir du film de toute façon, c'est super rafraîchissant, super. Non mais franchement, on se pisse dessus de rire du début à la fin. Alors bon, certains diront que c'est gentillet. Moi je dirais plutôt c'est voilà, c'est frais, mais tu t'as la banane en sortant, t'as vachement envie de surfer. Bon, ça c'est logique hein.
Ouais, comme dans Bryce de Nice, ouais.
Ouais, et alors par contre, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario, c'est un copier-coller de Cars, puisque c'est la même histoire, les mêmes personnages, la même morale et les mêmes péripéties quasiment. Donc bon, c'est faut savoir avant d'y aller. Mais par contre, après, c'est le choc. Alors évidemment, ils ont développé des nouveaux systèmes de rendu pour les rouleaux de surf. Donc, mais
ouais, tout ce qui concerne l'eau, c'est impressionnant.
Ah oui, oui. Alors là, par tous les temps, eau turquoise, sur l'île paradisiaque, par un mauvais temps, pour faire encore plus peur et tout. Surtout si on y va au cinéma, donc là, t'es propulsé dans le rouleau carrément. Et surtout que comme c'est un film d'animation en 3D, tu peux placer la caméra où tu veux. Donc t'as la caméra qui fait les travelling à l'intérieur du rouleau. T'as même un plan de vue subjectif avec le surfeur qui est, du point de vue du surfeur qui commence à monter à 4 mètres plus et même plus haut avec le rouleau qui commence à partir. Donc c'est vraiment comme un grand 8, c'est super impressionnant. Après bon, comme c'est des pingouins, bon mais les animateurs ils ont pris un malin plaisir à exploiter le côté cromagnon des pingouins. Donc il y a plein de petits pingouins qui sont fans de surf, et moi qui veulent passer devant la caméra, parce qu'il faut aussi savoir un truc que j'ai pas dit, le système narratif, c'est un reportage. Donc c'est une équipe de télévision de reportage qui va suivre Cody Maverick depuis la banquise jusqu'au championnat de surf. Et donc c'est une succession d'interviews de gens qui veulent passer à la télé, etc. Donc là, les petits pingouins, ils disent moi. Alors il y a une interview de la sauveteuse Lani, donc évidemment qui est en rouge, enfin pas de maillot ni rien, mais on voit vraiment que c'est inspiré d'une célèbre série. Et donc sa bouée, en fait, c'est un calmar. Un calamar avec des yeux super expressifs. Alors évidemment, chaque fois qu'elle est à l'écran, bah tu te prends un malin plaisir à regarder plutôt le calamar qui avec les yeux qui vont à droite à gauche, avec le regard qui se plisse, etc. Donc tu es hypnotisé par le calamar. Et derrière, tu vois un petit pingouin qui veut son plaisir dans la journée, c'est de se faire sauver par Lani. Donc il dit hop, ah oh, je me noyade. Donc c'est super mignon. Mais pas nier t'as les péripéties, bon t'as un peu l'impression de les avoir déjà vues certaines ailleurs, mais d'autres c'est vraiment des gags qui fonctionnent super bien. À un moment donné, t'as Cody Maverick qui annonce à la télé quand il sort de sa banquise, il dit vous allez voir, je vais tout péter et vous allez vous passer en boucle mes exploits dans les vagues. Et première vague qui surfe, en fait il se lamine la gueule comme un gros connard en poussant un cri, et effectivement c'est une vidéo qui se passe en boucle en multipliant les angles de caméra et tout. Donc c'est un type de gag qui fonctionne tout le temps, et voilà. Donc c'est une comédie qui fonctionne super bien. Bon, ça fait un peu beaucoup de films sur les pingouins après Happy Feet et La Marche de l'Empereur.
Ouais, mais ça c'est le succès de Linux, tu vas pas faire un film quand même sur les pommiers voire sur les fenêtres.
Non, c'est clair. Voilà. Donc voilà, c'est plein de petites trouvailles comme ça. Les doubleurs français, donc il y a Pierre Richard qui fait le geek un peu expérimenté, voilà. Il y a Omar et Fred qui fait le Chicken Joe. Et il y a également, en commentateur sportif, Nelson Montfort. Et oui, come on. Alors Nelson Montfort, c'est assez rigolo de l'entendre commenter les compétitions de surf, mais on peut pas s'empêcher de trouver que c'est un peu surjoué, mais pas dans le sens surjoué, non, il en fait des tonnes, parce que de toute façon Nelson Montfort, s'il est dans le film, c'est qu'il en fait des tonnes normalement, c'est juste qu'il est réellement beaucoup plus impressionnant et drôle au naturel. Repassez-vous les commentaires qu'il fait sur le patinage artistique, c'est vraiment beaucoup plus rigolo que ce qu'il fait dans le film, parce qu'il est obligé de tenir un dialogue écrit à l'avance, et on voit que c'est surjoué. Nelson Montfort essaie de faire du Nelson Montfort, mais il n'y arrive pas. Et donc ça, c'est un peu la déception. Alors après, il y a des allusions dans le film aux vrais surfeurs qui ont apporté le conseil technique, comme Roy Machado ou Kelly Slater. On les voit aussi en pingouin dans le film, donc il y a le crâne chauve, etc. C'est assez rigolo. Bon voilà, comme j'ai dit, c'est un peu un copier-coller de Cars. Bon, quand t'es habitué aux films d'animation et un peu aux films à message et aux morales pour les plus petits, on voit vraiment un truc que je vais pas spoiler dans le film, mais certains personnages ne sont pas les personnages qu'ils veulent faire croire. Big Z, est-ce qu'il est vraiment disparu? Bon voilà. C'est quand même assez rigolo, plein de personnages en couleur avec un espèce de promoteur de la compétition de surf, c'est un espèce de dérisson horripilant qui essaie de s'accaparer les caméras tout le temps. Alors Les Rois de la Glisse, c'est un film qu'on ne peut que vous conseiller, qui est sorti que mercredi dernier, donc il est encore à l'affiche, à voir évidemment dans les plus grosses salles, parce que les rouleaux de surf, c'est vraiment impressionnant. Rendu d'eau qui est vraiment extraordinaire. C'est désormais le film pour moi de surf de après Prison Break. Ouais, donc désolé, c'est
comment ça s'appelle, Point Break, après le jour d'après.
Voilà, après Point Break, pardon, avec Keanu Reeves, hein. Et
donc, oui, ouais. Oui.
Donc c'est un excellent film, Les Rois de la Glisse, un film d'animation 3D co-réalisé par Ash Brannon et Chris Buck.
Allez, une dernière dédicace pour du sport. Dans le domaine de la bande originale de films cette fois-ci, un grand classique qui va forcément devoir se refaire. Encore, encore, encore et encore. Kyo Hisashi, Maigo, le thème de l'enfant perdu dans Totari no Totoro. rigole de l'ultralibéralisme, on rigole de la flexibilité de l'emploi et tout ça, hein, mais n'empêche que quand même, on arrive à la fin de ce supplément week-end. Thomas, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, un résumé tout frais. On a eu du journal satirique, du pavé birman, de la BD chinoise avec des épées, des pingouins qui font du surf et un fil rouge, du sport, bientôt papa pour la troisième fois.
Nom d'un tux qui fait du surf sur Firefox. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec ses chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site sur le site web, l'adresse est supplementweekend.tk, sans accent ni tiret, supplementweekend.tk. Et là-dessus, eh ben, vous pouvez réécouter tout le reste et n'hésitez pas, écrivez-nous, ça nous fait énormément plaisir. La suite des programmes sur Radio FMR, sans cahier sportif, 15h Zarma Farai sur Reggae, 17h Big Bang, c'est du rock, 18h Vie d'ordure, c'est du punk. 19h, Last Happier, excusez-moi, c'est avec le petit cocktail, les olives et les cacahuètes. 20h, Last Hétéro Experience, c'est de la musique disco électro. Et 21h30, c'est You Step, c'est Enough Love. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sans Thomas, mais avec du sport cette fois-ci. Ciao, bye.
Ciao.